Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Immo.
Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo, on est ravis de vous retrouver dans le Mac de l'Immo. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 26 avril, on est ravis d'être avec vous, c'est le dernier vendredi du mois d'avril, après on enchaîne avec un mois de pont et de jours fériés. Erwan Lemercier, bonjour.
Bonjour Bérénice, bonjour à tous.
Comment allez-vous?
Très bien et vous?
Eh bien écoutez, en pleine forme, je vois que vous êtes en forme aussi.
Oui, d'être en votre compagnie, ça ne peut que réveiller.
C'est très gentil, oui. Avec c'est plaisir. Vrai que le matin je secoue. Alors bon, on a un beau programme pour cette émission, plein d'actualités hein, pendant la première partie, que vous soyez copropriétaire, propriétaire, locataire, que vous ayez envie d'acheter votre résidence principale, un logement à mettre en location. Voilà, on fait le plein d'actualités pour vous. On va parler des propriétaires justement qui ne respectent pas toujours l'encadrement des loyers. On fera un focus sur le pouvoir d'achat immobilier des Français. Erwan, vous allez nous présenter votre revue de presse de la semaine.
Tout à fait.
De quoi vous allez parler?
On va vous expliquer pourquoi les transactions immobilières devraient connaître une hausse dans les mois qui viennent. Quand on est propriétaire, Bérénice, est-ce que vous saviez qu'on peut échanger un bien?
Non, je ne le savais pas.
Eh bien écoutez, je vais tout vous dire et puis pour terminer, on va faire l'histoire d'Elisabeth, 92 ans, qui ne souhaite pas quitter sa maison, même pour tout l'or du monde.
Eh bien voilà, on en parlera dans quelques instants. On parlera aussi des fonctionnaires, puisque oui, si vous nous écoutez et que vous êtes fonctionnaire, vous avez peut-être aussi des difficultés à vous loger ou à trouver un logement décent. C'est un chiffre assez triste, hein, mais c'est un chiffre qui augmente. Et puis on parlera aussi du marché des maisons neuves. Enfin bref, plein d'actualités pour cette première partie. Et puis en deuxième partie, à 8h45, notre invité nous rejoindra en plateau. Il s'agit de Xavier Lépine. Alors Xavier Lépine, c'est un grand monsieur de l'immobilier qu'on a plaisir à recevoir. Il est actuellement mon président de la Société des Nouveaux Propriétaires. C'est Néoproprio. On va découvrir ce que c'est. Ça permet d'être propriétaire en cette période un peu compliquée. Il est également président de Paris-Île-de-France Capital Économique et puis de l'IEIF, l'Institut de l'Épargne Immobilière et Foncière, dont on parle souvent sur Radio Immo. On partage beaucoup leurs chiffres, leurs data. Donc voilà, un bon Mac de l'Immo pour commencer, pour terminer plutôt la semaine et commencer le week-end. C'est parti.
Le Mac de l'Immo sur Radio Immo.
Allez, on en a parlé, Erwan, on commence avec votre revue de presse. Après une période compliquée, les transactions immobilières commencent à retrouver des couleurs.
Tout à fait, des propriétaires qui ne souhaitaient pas baisser leur prix, des banques qui prêtaient avec énormément de difficultés, une mauvaise passe qui semble prendre fin. En effet, interrogé par nos confrères d'Europe 1, Louis Duclary, le cofondateur et CEO d'Enchères Immo, confirme cette dynamique. Des signaux qui semblent intéressants, notamment sur l'écart entre l'attente des vendeurs et des acquéreurs. En novembre, il était de 9% et sur le mois de mars, il n'est plus que de 5%. Alors cela permet de voir et de confirmer un peu cette situation qui semble se décanter, puisque la vision et les résultats espérés par les vendeurs et les acheteurs se rapprochent. Par exemple, certains acheteurs ont même pu proposer des prix au-dessus des estimations et donc des attentes des vendeurs. Une tendance qui peut s'expliquer notamment grâce au fait que les banques prêtent de nouveau de l'argent. Petite piqûre de rappel, les taux bancaires étaient de 4% en décembre 2023. Aujourd'hui, ils tournent aux alentours des 3,70 hors assurance. Et selon plusieurs estimations, les taux pourraient même chuter à 3,5%, ce qui permettrait aux Français, selon les chiffres de ce de gagner entre 1 et 4 mètres carrés de plus, des taux donc qui pourraient reculer avec la probable baisse des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne qui devrait intervenir le 6 juin grâce à la maîtrise de l'inflation dans la zone euro, ce qui permettrait d'avoir peut-être des taux immobiliers sur 20 ans à 3,2% en fin d'année avec à la clé un nouveau gain de pouvoir d'achat pour les ménages. Espérons pour le marché de l'immobilier que cette situation continue.
Allez, vous ne le savez peut-être pas, mais en tant que particulier, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, hein, Erwan, moi je ne le savais pas en tout cas, on peut, si on ne veut pas vendre pour acheter un nouveau logement, on peut échanger son logement.
Tout à fait, ça s'appelle l'échange définitif de propriété. Alors qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un acte notarié qui consiste à effectuer une seule et même opération immobilière. L'un des avantages de cette opération est, surtout ne me remerciez pas, c'est qu'elle peut vous faire faire beaucoup d'économies, notamment en frais de notaire ou plutôt en droit de mutation. En effet, près de 60% de ces frais annexes peuvent être économisés. Alors comment ça se passe ? Eh bien si les deux propriétés n'ont pas la même valeur, une somme d'argent doit simplement être versée par celui qui détient celle de la plus petite valeur, c'est ce qu'on appelle la soulte. Comme on dit, jamais 203. Voici une troisième bonne raison de vous renseigner sur l'échange définitif de propriété. Eh bien, vous pourrez dire au revoir au prêt relais, car on le rappelle, le prêt relais consiste à emprunter une somme pour acheter un nouveau bien. C'est un prêt qui sera par la suite remboursé par la vente de l'actuelle propriété. Et c'est une technique qui, en réalité, coûte très cher au propriétaire. Alors bon, tout ça c'est bien beau, mais l'échange définitif de propriété présente quand même quelques inconvénients. Le plus important et pas des moindres, eh bien, c'est que les offres sont très très rares vu que cet échange est très méconnu. Fort heureusement, des plateformes en ligne émergent un petit peu en ce moment à droite à gauche pour répondre à ce problème. C'est par exemple une sorte de Tinder de l'immobilier. Vous allez à droite si vous aimez et puis à gauche si vous n'aimez pas. C'est l'application BA Immo qui n'a que 3 mois et elle met directement en relation les particuliers qui souhaitent vendre leur logement. Simple condition pour pouvoir consulter les offres, il faut rentrer soi-même une annonce.
J'aime beaucoup le concept, le Tinder de l'immobilier. Ça me plaît bien, je vais aller voir ce que c'est. Bon, on termine un scénario immobilier digne des États-Unis. Elisabeth, 92 ans, fait face aux propositions de rachat de son logement depuis des années parce que sa maison gêne les propriétaires du golfe d'Augusta en Géorgie.
L'argent ne fait pas tout. Voici ce qu'Herman, le défunt époux d'Elisabeth, avait répondu lorsque les propriétaires du club tentaient de négocier avec le couple pour acheter la seconde maison. Alors seconde, en effet, parce que le couple a déjà conclu une vente d'$1,2 million pour un bien similaire qui ne valait que $300,000 avec ce club. Un club de golf qui n'est autre que le célèbre club d'Augusta en Géorgie, qui reçoit chaque année le Master, un tournoi faisant partie du Grand Chelem. Un club qui souhaite donc s'agrandir et depuis 2019, il ne dépense pas moins de $200 millions pour racheter des maisons. Mais cette fois, Elisabeth, qui vit désormais seule, ne cédera pas. Impossible pour elle de quitter cette maison qu'elle a construite de ses mains avec son mari Herman en 1959, où ils ont élevé leurs enfants, leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Tout ça donc, même contre des millions de dollars. Une résistance inopiniâtre qui a isolé la maison qui est devenue un petit îlot dans le quartier déserté. Si les héritiers suivent le même sillon émotionnel, bien évidemment, le club de golf lui semble loin d'atteindre son objectif d'expansion. Pour Elisabeth et sa famille, je pense que c'est un petit message à retenir. L'attachement sentimental à son foyer primera toujours sur n'importe quelle offre financière.
Que c'est beau.
Le Mac de l'Immo sur Radio Immo.
De retour dans le Mac de l'Immo, on parle des propriétaires qui ne respectent pas toujours l'encadrement des loyers, comme le démontre une étude portant sur différents sites d'annonces immobilières. On écoute Vincent Favreau.
Quelle est la part des logements proposés à la location qui ne respectent pas l'encadrement des loyers à Paris ? C'est la question à laquelle répond cette étude détaillée par nos confrères du Monde, réalisée par un mini logiciel gratuit appelé Encadrement et développé par deux ingénieurs français. Ainsi, sur la base de l'étude de 8 sites d'annonces immobilières, le logiciel montre qu'à Paris, au premier trimestre 2024, plus d'un logement sur 4 dépassait le plafond de l'encadrement des loyers. Un taux en baisse par rapport aux années précédentes, même le taux le plus bas depuis 2020. Côté montant du dépassement, on peut suivre cette fois les chiffres de l'OLAP pour Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne. En moyenne, l'organisme évalue à 160€ par mois le montant moyen d'un dépassement sur un appartement. Un chiffre qui se veut stable à quelques euros près depuis 2016. Autre étude, celle des gains pour les locataires. Combien économisent-ils avec l'encadrement des loyers ? Entre juillet 2019 et juin 2023, l'encadrement des loyers à Paris a permis, selon une étude de la mairie, de baisser les loyers de 4,2% comparativement à une situation sans encadrement. Un gain moyen de 64€ par mois de dépenses en moins, soit 768€ par an, tout logement et secteur confondu. Enfin, pour terminer, pas beaucoup de sanctions pour non-respect de l'encadrement en 2023. Sur 1700 signalements de locataires, 7 amendes ont été dressées contre les propriétaires, soit 0,41% des signalements suivis d'une amende. Même si tout signalement ne veut pas dire que le propriétaire est coupable, avouons que le taux est quand même très faible.
Le Mac de l'Immo sur Radio Immo.
Vous êtes bien sur Radio Immo et le marché de l'immobilier français se redynamise un petit peu selon Foncia. Bérénice, vous avez interviewé Jordan Frarier, le président de Foncia Transactions à ce sujet.
Jordan Frarier, bonjour, vous êtes le président de Foncia Transactions, merci d'avoir accepté cette interview. On va faire un petit point sur une étude que vous venez de sortir. Alors concrètement, comment se passe le marché immobilier en France en ce moment ?
Bonjour, avec grand plaisir. Le marché du premier trimestre retrouve quelques premières couleurs. Il est plutôt encourageant. On a un volume d'activité et côté acheteur et côté vendeur qui nous laisse penser que le deuxième trimestre pourrait être encore meilleur. Quelques premiers signaux positifs sur les établissements bancaires. Donc, voilà, sans crier victoire, plutôt encourageant.
Alors justement, c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans la presse en ce moment, hein, tous les médias relayent un petit peu l'information. On parle des prémices d'une reprise, est-ce que c'est encore un peu tôt pour le dire peut-être selon vous, concrètement, parce que quand on regarde vos chiffres, hein, les chiffres que vous avez publiés, les volumes de vente reculent quand même de 16% par rapport à l'année dernière, donc au T1 2023, si je ne me trompe pas.
Oui. Non, vous avez raison. Quand je parle de signaux encourageants, c'est parce que le début de l'année 2023 était bien meilleur que ce qu'on a pu traverser sur le deuxième semestre, et en particulier sur les 3-4 derniers mois de l'année. Et quand je parle de signaux encourageants, c'est parce qu'effectivement, je compare ces signaux à ce qu'on a pu vivre sur ces 3-4 derniers mois de l'année. Alors que dans l'étude qu'on partage, et c'est une volonté bien sûr pour comparer ce qui est comparable, on compare notre premier trimestre 2024 avec notre premier trimestre 2023 qui encore une fois était plutôt correct. C'est pour ça que je parle souvent de situation à date versus les trajectoires. Et la trajectoire de ce premier trimestre peut nous laisser penser que peut-être on se reparlera sur le troisième ou le quatrième trimestre 2024 et qu'à ce moment-là, on fera la conclusion, en tout cas je l'espère, qu'ils ont été meilleurs que ceux de 2023.
Alors il y a plusieurs facteurs hein, qui rentrent en compte. Déjà il y a les taux qui ont diminué un petit peu depuis décembre 2023 puisqu'ils sont passés juste en dessous des 4% hors assurance. Forcément ça joue. Hein. Et puis il y a aussi le retour de toutes les banques sur le marché du crédit. Toutes les banques sont de retour, les courtiers le disent. J'imagine que c'est ce que vous constatez aussi. Il y a un plus grand nombre de dossiers qui est accepté peut-être chez vos clients. Qui sont acceptés ?
Alors oui, tout à fait, et j'ai même envie de rajouter un troisième critère, c'est qu'on a un petit peu plus d'écoute de la part des clients vendeurs qui réajustent leur prix. On a constaté une baisse des prix de 3%. Donc quand on parle de 3%, c'est pour ça que j'évoque plutôt un ajustement qu'une baisse et encore moins une chute. En tout cas, cet ajustement de 3%, il correspond et il répond à certains acquéreurs qui, en parallèle de ça, vous l'avez souligné et je le confirme, ont retrouvé un petit peu de capacité d'emprunt avec ce début de baisse des taux qu'on souhaite voir se prolonger dans les mois à venir, et avec des banques, et là peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler aussi, qui sont plus ouvertes dans l'étude des dossiers, dans l'acceptation des crédits, et je pense en particulier à nos clients investisseurs. Quand je parle d'investisseurs, je parle de monsieur et madame tout le monde, hein, mais qui avaient beaucoup de difficultés l'année dernière pour faire passer des dossiers d'investissement locatif par rapport aux règles d'endettement et autres, et qui aujourd'hui retrouvent à la fois un petit peu de rentabilité et à la fois des oreilles très attentives côté banque.
Et c'est vrai que les investisseurs avaient quasiment disparu des radars hein, pour l'année dernière pour vous. Les primo-accédants aussi étaient très impactés. Là, est-ce que vous voyez un retour de ces profils, des primo-accédants ?
Oui, tout à fait. On avait complètement chuté côté investisseur, alors que pour le coup chez Foncia Transactions, c'est forcément une partie importante de notre clientèle acquéreur, puisque derrière on sait les accompagner sur les métiers de la gestion locative et de la location. On les retrouve pas encore au niveau auquel on les avait dans les années 2021-2022, mais en tout cas on retrouve quasiment un acquéreur sur quatre en investisseurs locatifs. Et on retrouve également effectivement du primo-accédant. Alors pour le moment, je ne vais pas vous mentir, on est surtout sur du primo-accédant qui est en capacité de pouvoir justifier d'un apport. On ne parle pas forcément oui. de 20 ou 30% d'apport pour son acquisition, mais en tout cas, même si j'ai entendu dire que certaines banques réétudiaient des plans à 110% ou autres, au quotidien, on voit plutôt des situations avec un 10% d'apport.
Oui, alors ça, apparemment, ça reste quand même assez rare et c'est pas dans les grandes villes. Je crois que c'est pour des biens plutôt en campagne et voilà qui sont dont la valeur n'est pas très élevée non plus. Un petit mot sur justement les prix des biens immobiliers, parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est vrai que un des blocages du secteur, c'était l'année dernière le point d'équilibre qu'on n'arrivait pas à trouver entre les acquéreurs d'un côté et les vendeurs de l'autre. Les vendeurs ne voulaient pas baisser leurs prix, les acquéreurs perdaient en pouvoir d'achat immobilier. Qu'est-ce qui se passe là quand vous dites que les vendeurs jouent un peu plus le jeu? Est-ce que du coup c'est de la pédagogie que vous avez fait qui a fini par fonctionner, ou c'est des ventes contraintes? Comment vous expliquer cette légère baisse des prix?
Ouais, ajustement de 3%, je vous disais, c'est l'inverse de l'année dernière. Donc en fait on le traduit ou on le conforte aussi avec le délai moyen de vente. Le délai moyen de vente, il est de 98 jours sur le premier trimestre. Mmh. Certes c'est 11 jours de plus que l'année dernière, mais c'est absolument pas gênant, voire et c'est pas pour faire de l'optimisme, mais je le vois même plutôt comme un signe positif, ce léger rallongement du délai moyen de vente, puisque ça veut dire que justement des vendeurs qui étaient peut-être moins sensibles, moins à l'écoute, et j'espère bien que c'est notre accompagnement et notre pédagogie qui a fait ces petits font que aujourd'hui ils écoutent, ils sont prêts à réajuster un petit peu leur prix, et comme d'habitude, un ajustement des prix du vendeur croisé par une meilleure capacité d'emprunt de l'acquéreur, ça prend un petit peu plus de temps, mais par contre on arrive à réconcilier deux.
Donc pour conclure, vous êtes plutôt positif pour ce début d'année. On espère une reprise. Les taux devraient, je dis bien devraient, hein, puisqu'on a eu un discours de Christine Lagarde il y a deux semaines qui a annoncé le maintien des taux directeurs de la BCE, mais selon plusieurs sources, selon le gouverneur de la Banque de France, on devrait avoir une baisse des taux d'ici juin. Est-ce que vous vous attendez à cette baisse des taux? Comment vous voyez la suite de l'année, le second semestre?
Alors, plus que de s'y attendre, en tout cas, on l'espère, parce que ça continuera d'encourager le mouvement et ce début de reprise là du premier trimestre. Ce qu'on voit surtout, c'est que on a de la demande acquéreur, on est sollicité par les vendeurs à la fois pour des estimations, à la fois pour des mises en vente. Donc on voit que le sujet de l'immobilier reste très important pour nos clients et pour les Français. Donc le printemps et le début de l'été devraient être plutôt agréables. J'espère qu'il le sera aussi sur le plan de la météo, mais on voit un regain d'activité au niveau des sollicitations. Donc ça veut dire que moralement, psychologiquement, dans l'esprit des clients, des Français, il y a de l'intention. Est-ce que après ça se transformera, et est-ce que après les conditions économiques accompagneront le mouvement, ça reste déterminé.
Eh bien, merci infiniment, Jordan Frarier, pour cette interview.
Le Mac de l'Immo sur Radio Immo.
De retour dans le Mac de l'Immo, on est ensemble jusqu'à 9h30 et je vous rappelle qu'à 8h45, Xavier Lépine, grand monsieur de l'immobilier, sera avec nous, le président de Néoproprio. On a hâte de redécouvrir son parcours. Il a quand même conseillé Emmanuel Macron sur le logement pendant les campagnes présidentielles de notre président. Donc c'est un plaisir de le recevoir sur ce plateau, mais tout de suite, Erwan.
un focus sur le pouvoir d'achat immobilier des Français qui est impacté par plusieurs facteurs, notamment ces dernières années.
Et oui, selon Se Loger, depuis 2020, les habitants des 51 plus grandes villes de France ont perdu en moyenne une pièce, soit 10 mètres carrés de pouvoir d'achat immobilier sur tous les types de biens. La cause, entre le 1er avril 2020 et le 1er avril 2024, les taux d'intérêt des crédits immobiliers ont flambé, hein, on le sait, ils sont passés de 1,25 à 3,95 hors assurance évidemment. Alors, évidemment, ces 10 mètres carrés perdus sont une moyenne, hein, je vous l'ai dit, de ces 51 villes. Quand on regarde en détail, on s'aperçoit qu'il y a de fortes disparités. À Lyon, par exemple, les ménages n'ont perdu que 2 mètres carrés, alors qu'ils en ont perdu 32 à Quimper.
Pour quelle raison ?
Eh bien parce que les prix de l'immobilier ont évolué différemment dans chaque ville. À Lyon, pendant que les taux augmentaient, les prix baissaient. Ainsi, la perte du pouvoir d'achat immobilier a été plutôt limitée pour les Lyonnais, alors qu'à Quimper, ils ont augmenté de 30,8% depuis 2020.
Alors, quelles sont les villes où les habitants ont perdu le plus de pouvoir d'achat, Bérénice ?
Eh bien, dans le top 3, on retrouve donc Quimper, ex aequo avec Saint-Étienne, puisque les Stéphanois ont perdu, tout comme les Quimperois, 32 mètres carrés. Et en troisième position, on retrouve Béziers. Les Biterrois ont perdu 28 mètres carrés en 4 ans. Ainsi, avec la même somme d'argent, les acquéreurs perdent 2, voire 3 pièces.
Toujours selon cette étude, une ville fait figure d'exception, puisque les habitants ont gagné du pouvoir d'achat immobilier.
Et oui, Erwan, c'est Paris. La capitale est la seule ville à connaître un gain de pouvoir d'achat immobilier en 4 ans et au regard des revenus dans la ville. Donc un ménage de 2 personnes en moyenne peut prétendre acheter 28 mètres carrés au 1er avril 2024 contre 26 mètres carrés en avril 2020. Les Parisiens ont donc gagné un placard 2 mètres carrés. Vous l'avez compris, c'est grâce à la baisse des prix de l'immobilier. Hein, le cycle baissier a commencé dans la capitale à la suite de la crise sanitaire, ce qui a permis aux résidents de compenser la hausse des taux d'intérêt qui a suivi.
Et comment peut-on voir la suite et comment la prévoir ?
Eh bien, alors, vous en parliez tout à l'heure, hein, si les taux tombaient cet été à 2,5%, les Français gagneraient entre 1 et 4 mètres carrés de pouvoir d'achat en moyenne. Donc ça reste une hypothèse, car actuellement, les taux sont encore à 3,95, mais c'est fort probable, vous l'avez dit Erwan, puisque les taux ont déjà diminué depuis décembre. Pour rappel, ils étaient à 4,30. Et selon la présidente de la BCE, la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, les signaux concernant l'inflation sont plutôt positifs. L'inflation continue de baisser, donc une nouvelle baisse des taux est fort probable d'ici cet été.
Le Mac de l'Imo sur Radio Imo.
Et oui, on est ensemble dans le mag. Dans quelques instants, on parlera du marché des maisons neuves. Mais tout de suite, les résultats de la première évaluation scientifique de l'encadrement des loyers à Paris ont été dévoilés ce 24 avril. Alors, si votre loyer a augmenté cette année, sachez que cela aurait pu être bien plus élevé sans l'encadrement des loyers, n'est-ce pas Erwan ?
En effet, en place à Paris depuis mi-2019, ce dispositif n'avait encore jamais fait l'objet d'études sur ses effets en France. Et c'est désormais chose faite grâce à l'Atelier parisien d'urbanisme, APUR, l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne, OLAP, Se Loger et une équipe de recherche en économie du CESAER. Alors, selon cette étude économétrique, entre 2019 et 2023, l'encadrement des loyers aurait évité une hausse des loyers de 4,2%, soit 64 euros par mois ou 768 euros par an. Barbara Gomez, la conseillère déléguée à la ville, ne cache pas ses émotions. On est très content du résultat. Les effets du mécanisme vont crescendo. Selon l'étude, la variation du loyer est imputable à l'encadrement était de moins 2,5% entre 2019 et 2020 pour passer à moins 5,9% entre 2022 et 2023. L'encadrement des loyers aurait par ailleurs un effet protecteur sur les petites surfaces. Une hausse de 10,2% a été évitée pour les appartements de moins de 18 mètres carrés contre 2,6% pour les logements de plus de 100 mètres carrés.
Mais tout n'est pas encore parfait puisque 38% des annonces dépassent l'encadrement, soit environ 4 annonces sur 10.
Alors si la hausse avait été encore plus forte sans l'encadrement des loyers, cela ne signifie pas pour autant que les loyers parisiens ont baissé ces 3 dernières années. Par exemple, rien que sur l'année 2022, les loyers du parc locatif privé ont augmenté en moyenne de 2,5% dans la capitale pour atteindre 26,40 euros pour le mètre carré. En 20 ans, les loyers parisiens ont ainsi augmenté de près de 75%. À Paris, le loyer moyen au mètre carré flirte avec les 27 euros contre seulement 15 euros en 2002. Avec ces résultats néanmoins encourageants, la ville de Paris compte bien convaincre les parlementaires afin de pérenniser le dispositif dont l'expérimentation doit prendre fin en novembre 2026. La municipalité veut encore aller plus loin en abaissant les loyers plafonds et en facilitant les procédures pour contester le montant de son loyer.
Le Mac de l'Imo sur Radio Imo.
Dans quelques instants, on parlera des fonctionnaires hein, qui ont de plus en plus de mal à se loger ou à trouver un logement décent. On découvrira une start-up IMO aussi, comme chaque vendredi, grâce à Jean-Michel Royot. Mais tout de suite, on parle du marché des maisons neuves, durement éprouvé par un début d'année compliqué. On observe de nombreux dégâts des eaux, dégâts d'ailleurs tout court, chez les constructeurs de maisons individuelles, dans une mauvaise passe avec la crise que connaît le monde de l'immobilier.
Jusqu'où ira la crise du marché de l'immobilier neuf en France? Les conséquences se font de plus en plus graves sur les acteurs du marché de la construction, notamment les constructeurs de maisons individuelles. Ainsi, le constructeur de maisons AST Group est dans une très mauvaise passe, comme le rapportent nos confrères du Figaro. AST Group se présente comme le deuxième groupe français sur ce secteur, avec 179 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 pour 326 millions d'euros de commandes et plus de 2000 logements commandés. Mais aujourd'hui, cet opérateur, installé près de Lyon, est dans la tourmente avec l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce. Une information qui vient s'ajouter à plusieurs faits qui, ces derniers mois, ont alerté le secteur, avec notamment un désengagement de nombreuses régions françaises pour le groupe, l'arrêt de son activité promotion immobilière, mais aussi la suspension de sa cotation en bourse. Il faut dire qu'au niveau national, avec moins 45% de ventes de pavillons en 2023, la pente est rude pour le secteur, surtout sur un segment où les primo-accédants sont nombreux sur la construction de maisons. Depuis le début de l'année, plus de 280 entreprises de la construction individuelle ont connu une défaillance. C'est un chiffre en forte augmentation, plus 33% que sur la même période l'an dernier. Une situation préoccupante. Les constructeurs de maisons sont en urgence absolue. Fin de citation. C'est avec ces mots que le président du pôle habitat de la Fédération française du bâtiment interpelle. Il ne demande qu'à être entendu.
Le Mac de l'Imo sur Radio Imo.
Et oui, de retour dans le Mac de l'Imo. Dans quelques instants, on va recevoir Xavier Lépine, le président de Néo Proprio. Mais tout de suite, on parle des fonctionnaires, Erwan.
En effet, de plus en plus d'ailleurs de fonctionnaires ont des difficultés à, malheureusement, à se loger et à trouver un foyer décent.
Et oui, le gouvernement qui s'est emparé du sujet avait lancé l'an passé plusieurs initiatives, dont la création d'un comité interministériel du logement des agents publics appelé CILAP. Et le 10 avril dernier, cet organisme qui est chargé d'apporter des solutions s'est réuni pour la troisième fois. Le député Renaissance David Amiel, qui avait été chargé en novembre d'une mission sur le logement des agents publics, a présenté ses conclusions et des solutions au ministre de la fonction publique Stanislas Guérini et au ministre du logement Guillaume Kasbarian. Le député veut aider en priorité les professions dites de première ligne, hein, c'est-à-dire les policiers, les infirmiers, les surveillants pénitentiaires ou encore les professeurs. Et parmi les solutions qu'il propose, alors on retrouve l'instauration de quotas de réservation de logements sociaux et intermédiaires pour les agents publics, l'extension de la garantie visale, vous savez c'est la caution gratuite, rendre accessible Action Logement aux fonctionnaires et aussi une simplification de nombreux dispositifs législatifs pour éviter des pertes de temps inutiles qu'on connaît bien en France dans l'administration. Le gouvernement a déjà mis en place quelques dispositifs pour les fonctionnaires, faut quand même le dire, hein, comme la création d'une indemnité de résidence pour les agents publics exerçant près de la frontière suisse, donc les frontaliers. Le gouvernement a mis en place aussi des études pour construire de nouveaux logements réservés aux fonctionnaires sur des terrains appartenant à l'État ou encore des sites d'annonces immobilières réservé aux agents.
Le Mac de l'Imo, la start-up Imo, Jean-Michel Royot.
Et oui, c'est le moment de découvrir la start-up Imo grâce à Jean-Michel Royot. Je vous rappelle que dans quelques instants, on va accueillir Xavier Lépine. Xavier Lépine qui est président de Néo Proprio, la société des nouveaux propriétaires. On va découvrir justement cette nouvelle société qui vous permet d'accéder facilement à la propriété. Xavier Lépine est également président de Paris-Île-de-France Capital Économique et de l'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. C'est un grand monsieur de l'immobilier. Il a notamment conseillé conseiller Macron pendant ses campagnes présidentielles. Et puis, c'est aussi un grand financier. Donc, on a hâte de l'interviewer voilà, sur ce plateau. Tout de suite, on découvre Horus Energy avec sa cofondatrice Fanny Sauvé. Bonjour Jean-Michel Royot.
Bonjour à toutes et à tous ce matin. Je suis absolument ravi d'accueillir Fanny Sauvé. Bonjour Fanny.
Bonjour, enchantée. Merci de m'accueillir ici.
Comment ça va?
Très bien.
En pleine forme?
En pleine forme.
Alors voilà, Fanny est la cofondatrice d'une très belle start-up qui s'appelle Horus Energy. Et donc, comme son nom l'indique, on va parler ce matin des économies et de l'énergie. Alors, là, on va passer tout de suite à la première question, à la traditionnelle question. Quelle est la promesse de votre start-up, Fanny?
Alors, notre promesse chez Horus Energy, c'est de transformer la façon dont les bâtiments tertiaires interagissent avec le réseau électrique, à la fois au profit du réseau électrique qui a besoin de 10 fois plus de flexibilité pour réussir la transition, et au profit des gestionnaires de bâtiments qui peuvent générer de nouveaux revenus en allant capter de la valeur côté réseau électrique.
Bon, donc c'est un sujet particulièrement criant en ce moment. On s'en doute tous et on va parler donc d'énergie dans le tertiaire, c'est bien ça?
Exactement.
Alors on veut en savoir plus, donc pour cela on va vous donner une minute. Vous allez avoir un petit chrono dans les oreilles et en une minute on veut tout savoir comment ça marche, depuis quand ça existe, combien de salariés vous avez, est-ce que vous intervenez sur l'Île-de-France, la France, l'Europe, voilà, tout nous raconter sur Horus Energy. C'est à vous Fanny.
Alors Horus Energy c'est une jeune start-up, on a débuté il y a un peu plus d'un an. Aujourd'hui on attaque une meilleure gestion temporelle de l'énergie et ça a beaucoup de valeur pour les gestionnaires de bâtiments car le goulot d'étranglement de la transition énergétique c'est son manque de flexibilité, c'est ce qu'on vient apporter en décalant intelligemment les consommations des bâtiments. Donc comment on procède avec pour faire ça? En premier lieu, on vient se connecter au système déjà en place de pilotage des équipements type chauffage, ventilation, climatisation dans les bâtiments. Ensuite, on vient décaler intelligemment les usages flexibles sans impacter le confort parce que c'est ce qui compte et ce qui est le plus important pour les gestionnaires. Et enfin, on vient capter la valeur côté réseau électrique et reverser des rémunérations pour cet effort et cette action de décalage de consommation. Et
alors moi, je ne suis pas un technicien, un expert comme vous, mais est-ce que c'est ce qu'on appelle la stratégie d'effacement?
Exactement, c'est ce qu'on appelle l'effacement électrique. Donc c'est venir aider et soutenir le réseau électrique en cas de tension sur le réseau. Et ça, c'est rémunérateur parce que le réseau électrique en a besoin pour réussir sa transition.
Bon, super. Donc vous devez être écouté, entendu, suivi et les contrats doivent aboutir.
Effectivement, c'est quelque chose de très intéressant pour les bâtiments et c'est une opportunité qu'ils peuvent saisir aujourd'hui pour avoir des rémunérations supplémentaires. Et surtout, c'est aussi une action qui a un impact fort
sur l'écologie.
Exactement.
Alors, qui vous fait confiance aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, on a deux typologies de clients. On travaille à la fois avec des gestionnaires de grands parcs immobiliers, comme La Poste Immobilier ou encore IKEA. On travaille également avec des entreprises qui font du facility management ou de l'energy management, comme Vinci Facilities, pardon. D'un autre côté, on est également certifié par Enedis pour pouvoir faire des remontées de données techniques des bâtiments et avoir une meilleure expertise sur ce qu'on apporte. Et enfin, on travaille côté R&D avec l'École Polytechnique.
Voilà, c'est ça. Vous me disiez en préparant l'émission que l'École Polytechnique vous aide. Alors, comment ça se passe? C'est quoi la mission et les échanges que vous pouvez avoir avec l'École Polytechnique?
On travaille avec eux sur l'impact de la radiation solaire sur les bâtiments pour avoir des analyses plus fines et du pilotage plus fin des effacements.
Parfait. Alors c'est quoi vos... Vous ne nous avez pas dit, vous intervenez sur toute la France, sur l'Île-de-France, c'est quoi votre aire de jeu aujourd'hui?
On intervient sur toute la France, sur des bâtiments qui sont en général supérieurs à 5000 m² en termes de surface, parce que c'est là où ça devient intéressant et impactant.
Donc 5000 m², on peut appeler Fanny pour trouver une solution. Et combien vous êtes?
Aujourd'hui, on est 5 chez Horus Energy. On est en train de finaliser une levée de fonds afin de recruter parce que ça va
c'est
vite.
C'est un petit ouais. Appel aux investisseurs
exactement.
Qui écoutent Radio Immo, évidemment. Très bien. Comment on fait pour vous contacter, du coup?
Alors, pour nous contacter, c'est simple. Soit sur le site internet, via l'adresse contact, on peut aussi faire des estimations gratuites du potentiel de flexibilité de bâtiment. Sinon, via LinkedIn, sur mon LinkedIn Fanny Sauvé.
Alors Sauvé, S-A-U-V-E.
Deux E, ouais, exactement.
Parfait. Et votre site qui s'appelle aurus-energie.com.
Exactement.
Voilà, écoutez, ben, c'était extrêmement intéressant, puis un sujet qui est particulièrement d'actualité, les sujets d'économie d'énergie et la démarche ESG qui concerne tous les acteurs de l'immobilier, évidemment. Donc bravo Fanny pour ce bon démarrage. On vous souhaite au nom de Radio Immo beaucoup de succès et on sera ravis de vous accueillir dans un an, peut-être avant, pour que vous nous racontiez les prochaines victoires de votre développement. En tout cas, bravo, on vous souhaite beaucoup de succès au nom de Radio Immo. À très
merci,
bientôt.
Merci beaucoup pour l'accueil.
Merci.
Le Mac de l'Immo sur Radio Immo.
Et voilà, la première partie se termine. Merci beaucoup Erwan Lemercier. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end?
Pas grand-chose. Je vais suivre un petit peu le foot. J'ai à cœur de voir le Paris Saint-Germain échouer.
Ah,
pour toujours avoir une chance.
Contre qui?
Titre. Ce week-end, contre
ouais.
Monaco.
D'accord, oui. Bon, c'est facile, non, de les battre, Monaco?
Ah, je suis pas pour Paris, donc je vais dire que non.
J'aime les gens qui ne sont pas pour Paris sur ce plateau.
C'est gentil.
Bon, dans quelques instants, on aura Xavier Lapine, d'ailleurs, qui est arrivé, qui est en train de s'installer en studio. On va écouter sa première musique, c'est Imagine de John Lennon. Il va nous expliquer pourquoi il a fait ce choix musical. Et puis, juste avant de se retrouver, on va écouter le Flash Info. Voilà, merci Erwan et à la semaine prochaine.
Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.immo et sur toutes les plateformes de streaming.